C'est pas la première fois que tu viens. En tout cas, ce matin, quand nous étions à notre culte à Lille sur la Sorgue, et que j'ai dit que je viendrais sur Cavaillon cet après-midi, il faut bien les saluer. Hein. Donc vous avez les salutations de nos amis de Lille sur la Sorgue. Et puis nous avons nous aussi, à un moment donné, apprécié le ministère et le service de Paul, qui est venu nous apporter lui aussi un message. C'était vraiment toujours une joie de le recevoir. Et puis voilà, Dieu conduit des choses. C'est formidable de voir les enfants qui sont ainsi actifs. Ça fait plaisir, ça encourage. Bon, nous avons moins d'enfants, nous, à Lille sur la Sorgue. Nous avons des gens comme moi, des vieux. Bon, pas tous, mais pas mal. Mais les effectifs croissent et les murs sont rétrécis. Alors nous prions vraiment pour trouver de nouveaux locaux à Lille sur la Sorgue, pour pouvoir vraiment accueillir encore plus et pouvoir célébrer nos rencontres, pour inviter de nouvelles personnes à venir, particulièrement au travers de nos petits déj que nous organisions tous les samedis matin, une fois par mois. Oh là, il y a du chambardement.
Ils sont actifs.
Ils sont actifs, voilà, exactement. Voilà, je vous invite à prier. Notre Père, merci. Merci de pouvoir ainsi partager ta parole. Merci pour l'œuvre que tu accomplis dans nos vies. Merci pour l'œuvre que tu accomplis dans nos églises. Merci parce que ce sont tes églises, c'est ton église, et elle, tu l'as à cœur. Et nous te bénissons parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Et merci Seigneur, merci pour ce témoignage ici, sur cette région de Cavaillon. Merci parce que tu maintiens ainsi ce témoignage. Nous te louons et nous te bénissons, notre Dieu. Bénis ces instants maintenant de réflexion et parle à nos cœurs, je te prie. Au nom de Jésus, amen. Voilà, alors je vais déjà vous demander pardon parce que j'ai dit que j'étais un vieux, et c'est vrai qu'au fond je commence à vieillir un peu, et ma mémoire fait parfois défaut et je suis un peu lié à mes notes. Alors bon, je vais essayer de faire au mieux, mais quand même. Alors, le titre de mon message, c'est « L'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui libère ». Et pour m'appuyer sur deux versets que je vais vous lire, dans le premier dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 16, qui dit ceci, peut-être vous le connaissez par cœur, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Et puis le deuxième verset, enfin deux autres versets que j'aimerais vous lire, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 31, c'est Jésus. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et au verset 36, il dit ceci, « Si dans le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » L'Évangile, la puissance de Dieu qui libère. Mais de quelle sorte de liberté il s'agit? La liberté, selon l'Évangile, semble incompatible avec la notion de liberté selon les normes de ce monde. Ce qui nous vient immédiatement à l'esprit quand nous intégrons la notion de Dieu Tout-Puissant, l'idée de puissance évoque le pouvoir qui s'impose et en s'imposant restreint la liberté à l'autre. Et Dieu Tout-Puissant, donc, cette puissance restreint donc la liberté. C'est une des grandes leçons de l'histoire des hommes. Plus quelqu'un est puissant, plus il est oppressif et moins il laisse de liberté aux autres. Puis l'idée de libération implique que le pouvoir de l'autre a été renversé et que les chaînes ont été brisées par une révolte. Et la puissance de l'autre, donc, aurait été vaincue. Alors c'est un paradoxe de dire à la fois que l'Évangile est la puissance de Dieu et que l'Évangile libère l'homme. Pour le philosophe Sartre, L'homme est libre, l'homme est liberté, il n'est que cela, ou alors il n'est plus l'homme. Or, si l'homme est liberté, l'autre est toujours ressenti d'une façon ou d'une autre comme une limite, voire même une menace à cette liberté. Et c'est ce qui apparaît dans une des pièces de Jean-Paul Sartre, Huit clos, où l'on voit des gens enfermés en un lieu où ils doivent vivre ensemble, passer tout leur temps ensemble, au point où cela devient un enfermement insoutenable. Pas tellement parce que les portes sont fermées, sont closes, mais parce que la présence des autres dans cette pièce huis clos fait que je suis étreint et contraint et nié dans ma personnalité. L'enfer, c'est les autres, c'est ce que veut dire Sartre. Alors, à plus forte raison, lorsque l'autre s'écrit avec un grand A majuscule, lorsque l'autre, c'est l'absolu, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant, comment peut-on être libre? Alors, toujours selon Sartre, dans une autre pièce, on y voit la liberté de l'homme exclure totalement l'existence de Dieu. Car s'il existait un Dieu tout-puissant, alors il en serait fini de la liberté de l'homme, de l'existence de l'homme en tant qu'homme. Par contre, si l'homme existe libre, il n'y a pas de place pour Dieu. Nous ne savons que faire de Dieu si l'homme est libre. Alors si je vous cite cela à propos de Sartre, c'est qu'il exprime quand même une opinion très répandue dans la population d'aujourd'hui. C'est une idée qui court et que beaucoup partagent dans notre société. Dieu serait l'ennemi de ma liberté. Il faut que je mette mes lunettes, j'ai oublié. Alors qu'au contraire, l'Évangile nous dit, sans Dieu, l'homme est esclave. Et Dieu seul a le pouvoir de le libérer. C'est important d'affirmer cela autour de nous, parce que ça, c'est l'Évangile, le message, la bonne nouvelle de la libération en Jésus. Car ce message que nous apportons au monde est un message étonnant. Et il prend le monde à contre-pied, soyons-en sûrs. Cela provoquera peut-être les sarcasmes autour de nous. L'intérêt des autres, le sarcasme des uns soit l'intérêt des autres. Mais cela ne devrait pas laisser les autres indifférents. À moins que nous, les chrétiens, illustrions mal cette liberté dans notre propre vie. Que nous ne manifestions pas réellement que nous sommes libérés en Jésus-Christ. C'est la bonne question que l'on doit se poser, surtout dans notre pays, qui met au premier dans sa devise le mot « liberté » avant l'égalité et la fraternité. Et moi, est-ce que je connais cette libération personnelle, relationnelle, communautaire en Christ? Puis-je en témoigner, la manifester devant les hommes pour qu'ils croient que Christ est le puissant libérateur? Au cours des âges, l'institution formelle qui se fait appeler l'Église a plutôt été ressentie comme oppressive, renforçant l'idée que Dieu est contre la liberté. C'est pourquoi il nous incombe à nous d'emporter le témoignage clairement dans le monde. Dieu nous a voulu libres. Dieu nous a créés pour la liberté. Et là, je m'appuie sur deux références bibliques dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 1er d'abord. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et au verset 13, frères et sœurs, c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Le début de la Genèse, qui est un texte fondamental, parce qu'il révèle le sens de la vie de l'homme. Il nous montre Dieu, le créant, comme le fleuron de sa création. Par contraste avec celle du monde matériel, les plantes, les animaux, l'homme est celui qui est appelé à dominer la création. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les animaux. Et puis au verset 28, Dieu dit à l'homme, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur le bétail, etc., etc. Il s'agit là d'une grande tâche que Dieu nous a confiée, au moins celle d'un VIP au niveau de la responsabilité. L'homme doit être collaborateur avec Dieu. Dieu l'a voulu comme son associé, comme celui qui gouverne la terre de sa part. Alors, la liberté qui est offerte à Adam et à Ève au début de la Genèse, c'est plus qu'une liberté de choix entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la désobéissance. Notre liberté telle que Dieu l'a voulu, c'est que nous vivions la plénitude de notre humanité en sa présence. C'est là qu'est notre vocation humaine. La vraie liberté est de pouvoir vivre notre vie selon l'intention originelle du Créateur. Il est le seul à savoir pourquoi nous sommes créés. Et tout au long de la Bible, nous voyons que les interventions de Dieu sont là pour rendre à l'homme la liberté perdue. Pensons à cet événement phare qui était la sortie du peuple hébreu d'Égypte, à laquelle toute la Bible s'y réfère comme étant un événement central de l'humanité. Nous y voyons que les chaînes sont brisées, que l'oppresseur est englouti au fond de la mer Rouge. La joie du peuple qui peut danser, chanter, Alléluia, acclamant l'Éternel, le Libérateur, qui va les conduire vers la terre promise. Et lorsqu'à l'autre bout de la Bible, nous lisons dans l'Apocalypse la fin de l'histoire de notre terre, on y voit la destruction de la bête et du faux prophète qui incarnent toutes les tyrannies humaines, qui sont le symbole et la réalité de tout ce qui oppresse, de toutes les dictatures qui déshumanisent la terre. Dieu seul est le vrai combattant pour notre liberté, puisqu'il en est à l'origine. Il nous faut donc abandonner l'idée de Sartre que l'homme ne peut être libre que sans Dieu et affirmer qu'au contraire, selon la Bible, c'est Dieu qui est le garant de notre liberté. Et voici un deuxième point crucial et nécessaire pour que Dieu soit le garant de notre liberté. Il a fallu qu'il s'engage personnellement dans la lutte, qu'il vienne lui-même briser nos chaînes. Exode 3, verset 7, « J'ai vu mon peuple, esclave, en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je connais sa souffrance et je suis descendu pour le libérer. Dieu est aussi venu pour moi, pour toi, dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, pour nous libérer. » Alors j'ai évoqué la pensée de Sartre disant qu'elle était fort répandue dans notre société. Mais en fait, c'est bien plus pire que ça. Cette pensée a été le porte-parole de la pensée humaine, de la pensée de l'homme révolté depuis la chute. Elle n'a fait que redire avec lucidité ce que le serpent a soufflé à l'oreille d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Dieu t'a voulu libre, soit. Alors n'hésite pas. Il faut aller jusqu'au bout de ta liberté. Il faut choisir où c'est Dieu, où c'est toi. Refuse toutes les limites, franchis l'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance qui te permettrait de voir plus clair. En mai 68, on avait écrit sur les murs de la Sorbonne, il est interdit d'interdire. C'est ce que le serpent a dit à l'homme. Rien ne doit être interdit. Alors, tu seras comme le Dieu. Tu décideras toi-même de ce qui est bien, de ce qui est mal. L'homme divinisé, Dieu détrôné, c'est l'immense duperie du tentateur. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'appelle le menteur. L'homme n'est pas à l'origine de sa propre vie, ni de celle du monde. Il n'est pas le créateur. Il n'est donc pas au sommet de la pyramide. Et quand il veut y parvenir, il devient seulement un méprisable usurpateur. Il quitte sa place pour convoiter une autre. Mais en quittant la place où Dieu l'a établie, il sort du plan de Dieu et du projet de liberté que Dieu avait conçu pour lui. Il déraille de sa vocation qui le destinait vers sa liberté et se livre aux mains de toutes les tyrannies. Lorsque l'homme se détourne de Dieu qu'il a créé pour la liberté, il se perd pour devenir l'esclave du péché. C'est là où j'étais, avant d'accueillir en moi cette puissance libératrice qu'est l'évangile de Christ. N'est-ce pas ce que nous avons tous vécu lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie? Alors, permettez-moi de vous raconter un peu comment moi, j'ai été libéré par l'évangile. Alors personnellement, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu à l'origine de tout ce qui existe. Ça n'a jamais été pour moi d'une quelconque difficulté de penser. Cependant, si j'admettais l'existence de Dieu, il n'occupait aucune place dans ma vie. Et c'est à l'âge de 15 ans, ayant fait la connaissance du groupe de jeunes chrétiens de Carpentras, que j'ai été sensibilisé sur le sujet. La question s'est alors posée à moi, quelle place doit-il occuper dans ma vie? Et qu'ai-je à faire personnellement avec Jésus? Alors par la lecture de l'évangile et ensuite à de nombreux échanges que j'ai eus avec des chrétiens engagés, j'ai commencé à cerner la nature de ce Dieu qui s'intéresse aux humains, donc aussi à moi. Et j'ai particulièrement été sensible en découvrant l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus. Même si je n'avais pas tout saisi dans le message, j'avais compris que Dieu m'aimait, que Jésus-Christ avait souffert, qu'il était mort à ma place et voulait conduire ma vie. J'en ai même été vraiment convaincu au point de répondre en manifestant mon désir de me convertir à Christ. Mais voilà, ma démarche n'était encore que superficielle. Et il faut connaître qu'à 15-16 ans, pour un jeune mal affermi et un tempérament plutôt épicurien, je menais en parallèle bien d'autres sollicitations, en plus des questions existentielles. Je dois ajouter aussi que je n'avais pas envie de perdre ma liberté de jeune en m'engageant pour Christ. Alors, je me suis lancé dans une sorte de double vie, tout en gardant des relations avec les chrétiens, présents aux soirées de jeunesse et au culte de temps en temps. Mais j'avais en parallèle d'autres fréquentations auxquelles j'avais pris goût. Une bande de joyeux fêtards dont les préoccupations se limitaient à faire la bringue et à prendre du bon temps, comme on dit. Et forcément, je me suis mis à passer beaucoup plus de temps en boîte de nuit qu'en quête de réalité spirituelle. Au début, je ne souffrais pas trop de cette dichotomie. Mais au fur et à mesure, l'accumulation de tous ces excès ont fini par perdre de leur éclat. Alors, je me suis souvent senti vide intérieurement, découragé et seul parmi les nombreux amis de ma bande. Plusieurs fois, j'ai voulu rompre avec ce style de vie, mais ce n'est pas si simple. Je me suis rendu prisonnier dans le piège de la dolce vita, désirant couper, mais sans force pour y arriver. Moi, qui tenais à garder ma liberté de jeune, j'étais devenu esclave de ma vie de catachon. Mon problème s'est aggravé en faisant mon service militaire dans la marine. J'étais embarqué sur un escorteur d'escadre à Toulon et mes fréquentations sont alors devenues pires que lorsque j'étais à Carpentras. mais un rappel divin, s'est produit lorsque nous faisions une escale à Haïfa, en Israël. Nous y sommes restés une semaine. C'était en décembre 1966 et nous avons eu la possibilité de visiter une certaine partie du pays, parce qu'à cette époque-là, Jérusalem, c'était la Jordanie, ça n'appartenait pas encore à l'État d'Israël. Et nous a été proposé dans ces visites, et c'était vraiment, pour moi, vraiment un rappel de Dieu. J'étais dans le pays où Jésus avait marché. La proximité de ces lieux bibliques m'ont ramené à ma quête de Dieu, que j'avais plus ou moins abandonnée. Alors je me suis promis qu'après ma libération de l'armée, lors de mon retour à Carpentras, je reprendrai mon chemin avec Dieu. Mais comme le dit si bien l'Évangile, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le moment venu, lorsque je suis retourné à Carpentras, je n'ai pas su rompre avec mon ancien style de vie. Toutefois, mes rencontres avec les chrétiens, avec les amis chrétiens, se sont quand même multipliées. J'étais bien travaillé intérieurement et je voulais m'en sortir, mais sans beaucoup de succès. Il m'aura fallu sept mois, jusqu'à ce samedi de février 1968, où je m'étais engagé auprès des jeunes chrétiens à passer la soirée avec eux. Mais voilà, cheminant volontairement vers le temple où il y avait le groupe de jeunes, déterminé, n'arrive-t-il pas que je tombe nez à nez avec un de mes bons copains, Fétard. Alors il me raccroche pour la soirée et bêtement je l'ai suivi. Et nous voilà partis rejoindre d'autres pour effectuer la ronde des bistrots, puis le restaurant et pour finir en boîte de nuit. Et c'est là, dans cette boîte, entouré de nombreux copains, dans une ambiance de fêtard, que je me suis retrouvé grisé, mais malheureux. Malheureux dans ma détresse, de ma fragilité et de mon humiliation. C'est alors que je me suis mis à pleurer, au milieu de tout ce joyeux monde insouciant. Et mes amis, mon ami s'est inquiété de mes sanglots. Alors je lui ai demandé s'il voulait bien me conduire au temple pour rejoindre le groupe de jeunes chrétiens. Et très étonné de cette demande, il a quand même accepté de m'y conduire, sans trop d'explications. Ce devait être 11h ou minuit du soir, et le groupe était toujours réuni au sous-sol du temple à Carpentras. Et j'ai gardé en mémoire cet épisode de ma vie comme si c'était hier. Je me retrouve devant la porte au sous-sol. J'ouvre, j'entre et je vois les jeunes assis en cercle en prière. J'ai appris par la suite qu'ils avaient beaucoup prié pour moi ce soir-là. Alors vous pouvez imaginer leur surprise de me voir ainsi debout devant la porte. Quant à moi, j'ai fortement ressenti la présence du Christ en ce lieu. Présence bienveillante, accueillante. Et en même temps, j'ai éprouvé un profond dégoût de moi-même. Ne pouvant plus me supporter, je me sentais sale, sans force, enfermé dans mon mal-être. Alors j'ai alors fait appel à Christ, qui m'a poussé à vider mon sac de tout ce qui m'écrasait, de tout ce qui encombrait ma vie. Je me suis mis à confesser, nommément, devant tous les témoins des jeunes qui étaient là, tous les actes et les événements qui pesaient sur ma conscience, et devant tous ces jeunes présents en ce lieu. J'ai pleuré abondamment et j'ai alors ressenti presque physiquement le pardon de Dieu et de cette délivrance de Dieu. Ça a été une grande libération pour moi. Et c'est ainsi que j'ai pu prendre dans ma vie un nouveau départ avec mon libérateur. Oui, j'ai répondu dans mon cœur à l'appel de Dieu. J'y ai répondu. Depuis, Christ est resté présent en moi et je continue à me conduire sur son chemin qui n'est forcément pas sans combat. Il y a toujours des combats, mais Christ est toujours vainqueur. Je peux vraiment en témoigner. Voilà comment j'ai expérimenté pour la première fois que l'Évangile est une puissance qui libère. Là, c'était quand même que le point de départ. Je connais depuis d'autres libérations, et encore des libérations. Ma course n'est pas encore achevée, j'ai 75 ans bientôt, ma course n'est pas encore achevée, et je continue encore et toujours d'expérimenter tout au long de mon chemin que l'Évangile est la puissance de Dieu qui libère. J'aimerais juste redire le verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » La puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu, est une puissance libératrice qui libère. Faisons-lui confiance. Je vous invite à prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis dans nos vies. Merci de nous avoir révélé l'œuvre de ton Fils qui nous libère. Merci de nous avoir sortis de là où nous étions. Merci d'avoir brisé les chaînes. Merci de nous avoir libérés pleinement. Nous te remercions parce que tu veilles et tu continues à veiller sur chacun de nous qui avons répondu à ton appel. Et nous pouvons ainsi témoigner autour de nous que nous sommes libres. Nous sommes libres parce que tu nous as libérés. Et nous voulons parler de ça autour de nous. Partager cela avec tous ceux que nous côtoyons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'être courageux dans ce sens-là et de pouvoir le faire. Merci. Au nom de Jésus. Amen.